Dans quelques instants, dans une quinzaine de minutes, on va aller rejoindre un joueur de la Ligue américaine, Pierre-Cédric Labrie, qui est devenu papa il y a une semaine, mais d'une façon bien, bien particulière. Puis je vais le laisser vous raconter cette histoire-là, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Pour l'instant, on s'en va à Victoriaville rejoindre Stéphane Leroux, qui a travaillé très fort au cours des dernières semaines au championnat mondial junior, puis il continue de travailler fort dans la Ligue junior majeure du Québec et la Ligue américaine aussi. Stéphane, bonjour!
Salut Pierre, ça va bien?
Ça va bien, t'es remis un petit peu de ton rush du hockey junior à Buffalo, oui?
Non, on va prendre quelques jours de congé cette semaine, mais aujourd'hui, le dimanche, c'est une grosse journée dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, je voulais voir notamment Étienne Monpetit, qui est un des joueurs acquis par les Tigres de Victoriaville dans la période de transaction. Alors, je vais faire un tour ici cet après-midi, mais on va prendre quelques jours, on va prendre un petit peu de recul cette semaine, ça va faire du bien.
Bon, ben justement, parce qu'on parle de la Ligue junior majeure du Québec, on va en parler tout de suite avant de revenir sur le championnat mondial junior. Donc, la période de transaction, c'est terminé, là?
Oui, ça s'est terminé hier à midi dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est toujours au lendemain là, du championnat mondial de hockey junior qui se termine chaque année le 5 janvier. Écoute, ça a été un peu moins occupé. Les gens regardent ça, là, puis j'ai fait le bilan hier, je calculais. Il y a eu 60 joueurs qui ont changé d'équipe. Mm-hmm. C'est 77 choix au repêchage qui ont été échangés. 60 joueurs, tu sais, c'est l'équivalent de 3 équipes. Alors, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'un joueur sur 6 dans la Ligue junior majeure du Québec a été échangé pendant la période des fêtes.
Puis tu dis que c'était tranquille?
Oui, c'était tranquille, parce qu'il y a des années que ça va à 80 puis 85. Ah, ouais. Là. Alors, il y en a eu un petit peu moins cette année. Puis ça s'explique probablement par la parité aussi qu'il y a dans le circuit présentement. Il y a plusieurs équipes qui se disent qu'ils ont peut-être une chance de surprendre. Tu sais, quand tu regardes le classement, là, il y a 8 points d'écart entre le premier, l'Armada de Blainville-Boisbriand, et le 9e, les Remparts de Québec. C'est 56 à 48. Tu as 9 équipes là-dedans. Puis tu as Victoriaville qui est pas loin derrière, qui va sûrement remonter au classement aussi parce que c'est une très bonne équipe et ils ont fait de bonnes acquisitions. Alors, tu sais, ces 10 équipes-là se disent, mais nous, on a une chance de gagner une ronde ou deux. Alors, je pense que ça a limité un peu, même si ça a l'air beaucoup, là, quand tu regardes ça à l'extérieur, 60 joueurs échangés. Ça a limité peut-être un peu les mouvements de personnel.
À première vue, c'est difficile, évidemment, de voir dans la boule de cristal comment ça va se passer d'ici la fin de la saison, mais laquelle des équipes qui peut aspirer aux grands honneurs s'est le plus améliorée durant cette période des transactions?
Ben, je veux dire Bathurst, Blainville et Victoriaville. Victoriaville, en ce moment, là, sont 10e au classement général, mais souviens-toi, il y a à peu près un mois et demi, j'étais ici un dimanche après-midi, on se parlait, c'était le premier match de Vitaly Abramov avec les Tigres. Lui, il est arrivé avant le début de la période de transaction parce que c'est un Européen, puis les joueurs européens, puis les joueurs de 20 ans, on peut les échanger n'importe quand. Tu regardes l'Armada là, qui vient d'ajouter hier Drake Patterson, qui a été très bon pendant le championnat du monde de hockey junior. Et tu regardes l'hôpital Acadie Bathurst, on a fait l'acquisition de Mitchell Balmes, qui était le 2e meilleur buteur de la Ligue, qui jouait pour Gatineau. On est allé chercher Olivier Galipeau, le capitaine des Saguenay de Chicoutimi, qui est probablement le meilleur défenseur, ou en tout cas un des 3-4 meilleurs défenseurs du circuit. Alors, ces équipes-là ont payé cher là, pour y aller pour cette année. Il y a d'autres équipes qui sont améliorées aussi, puis je te dirais à un moindre niveau. Tu sais, Rouyn-Noranda est allé chercher un bon défenseur, Thompson. Mon Drummondville, on a ajouté Joe Valeno. C'est pour cette année, mais c'est surtout pour l'année prochaine. Okay. Mais les 3 équipes, je te dirais, là, qui ont le plus amélioré leur alignement, c'est probablement Victoriaville, Bathurst et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais ces 3 équipes-là, en principe, ont les éléments, là, peu importe où ils sont au classement en ce moment, ont les éléments pour espérer accéder au carré d'as, à la ronde demi-finale. Là, il va y avoir une 4e équipe qui va se profiler. Est-ce que ce sera Halifax? Est-ce que ce sera Rimouski? Drummondville joue très bien, mais c'est une équipe qui est très jeune au classement. Moi, je pense que Gatineau et Charlottetown vont baisser un peu en 2e moitié de saison. Alors, ça va être intéressant à suivre, mais c'est vraiment serré en ce moment. Là, quand tu dis 8 points d'écart entre les premiers et les 9e, là, c'est très serré.
Mais tu n'as pas mentionné mes Remparts qui sont allés chercher Antoine Samuel, un des meilleurs gardiens de la Ligue, à
Bécomo. Oui, Antoine Samuel, c'est vrai, t'as pas tort. Mais je pense que, je sais pas, les Remparts sont dans une position, oui, on veut essayer de gagner cette année, j'en suis convaincu, mais en même temps, le noyau est pas à maturité là, pour les Remparts. Présentement, ils sont 9e au classement. Antoine Samuel, c'est sûr là, que ça va stabiliser parce que depuis quelques semaines, ça allait pas bien avec les gardiens de but à Québec. Ouais. Derek Baribeau a connu une baisse, puis les deux autres recrues qui étaient là, bon, ils sont plus là d'ailleurs, là. On les a retournés, alors Troop et Chalifour. Alors, oui, les Remparts, mais je les vois pas quand même. Je vais demander les équipes les plus améliorées.
Okay.
Moi, je pense pas que l'arrivée de Samuel et de Laberge, oui, ça améliore l'équipe, mais pas autant que ce que Bathurst, Blainville et Victoriaville ont fait jusqu'à présent.
OK. Parlons du championnat mondial junior. Je vais te poser la question que j'ai posée à Martin McGuire tout à l'heure concernant Victor Mété, qui va revenir chez le Canadien à la fin de la semaine après quelques jours de congé. Est-ce que, selon toi, c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre pour sa carrière à lui?
Je sais pas. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'on leur tournerait junior puis qu'il y aurait peut-être la chance de participer aux Jeux olympiques en février prochain. Je sais que dans la Ligue junior d'Ontario, ses droits auraient probablement été échangés. Eux, dans l'Ontario, ça se termine le 10, la période des transactions, donc mercredi. Mais je sais pas. Regarde, je pense pas que la présence de Victor Mété avec le Canadien est un absolu pour aider le Canadien à participer aux séries cette année. Alors, est-ce que c'est mieux qu'il joue 12-14 minutes avec le Canadien ou est-ce que c'est mieux qu'il en joue 23-24-25 avec une bonne équipe junior? Parce que je pense que London, cette année, l'aurait peut-être échangé là, à une formation qui aspire peut-être plus aux grands honneurs cette année dans l'Ontario. Et l'expérience des Jeux olympiques, quoi qu'on fait pas de quoi là-dessus, là, c'est pas parce qu'on l'a pas retourné dans la Ligue junior d'Ontario tout de suite qu'on peut pas le faire là, dans le prochain 3-4 semaines. Là, tu sais, c'est pas exclu complètement. Mais moi, je pense que Mété aurait aimé ça aussi, peut-être participer aux Jeux olympiques. C'est une belle expérience, même si le tournoi olympique cette année a peut-être pas la même saveur là, que quand les professionnels y sont, là. On va suivre ça. Moi, je suis pas convaincu que c'est une décision là, qui est dans le béton en ce moment. Peut-être que Marc Bergevin va en parler tantôt là, dans son point de presse. Mais en tout cas, on va suivre ça. Là. Mais moi, je pensais vraiment qu'on le retournerait junior aujourd'hui ou demain. Là.
J'ai entendu ton entrevue après le match de la médaille d'or avec Dominique Ducharme semblait complètement vidé. Puis aujourd'hui, ben, en fait, hier, il a confirmé qu'il ne reviendra pas l'an prochain à la barre d'équipe Canada junior. Je suppose que tu n'es pas très surpris avec le ton qui avait dans la voix, là.
Ben, ça devient tellement exigeant parce que lui, ça fait 3 ans de suite en plus. Puis, il y a 2 ans, quand on était à Helsinki, il a eu la douleur de perdre son père en plein milieu du tournoi. Je pense que c'est arrivé le 28 ou le 29 décembre. L'an passé, la défaite, ça fait mal en tour de barrage. C'est pour ça qu'il avait décidé de revenir une troisième année. Les gars qui sont allés, généralement, là, ils font un an comme assistant, un an comme entraîneur-chef. Puis après ça, on se retire parce que c'est quand même un gros sacrifice. T'sais, les semaines d'un dirigeant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme Dominique Ducharme, qui est entraîneur-chef et directeur général, c'est beaucoup d'heures. Puis là, ben, t'es investi en plus avec l'équipe Canada au niveau des meetings, au niveau du camp estival, au niveau du camp de sélection finale, la pression qu'il y a sur ce programme-là. Alors, je suis pas surpris qu'il revienne pas, puis je pense qu'il a fait le travail. Écoute, il est devenu en fin de semaine le 4e entraîneur canadien à pouvoir se vanter d'avoir gagner la Coupe Memorial et gagner la médaille d'or du championnat du monde junior comme entraîneur-chef. Et les 3 autres qui ont fait ça avant lui ont tous dirigé dans la Ligue nationale. Alors, j'espère que pour Dominique Ducharme, là, ses lettres de créance vont être bonnes pour une organisation éventuellement dans la Ligue nationale. Pas obligé d'être les Canadiens, ça peut être ailleurs. Tu sais, qu'on se surprenne pas. Là, pourquoi c'est bon pour les autres, ça serait pas bon pour lui, ça? Puis en même temps, il a tourné la page, il a gagné. Benoît Grou avait dit le 5 janvier 2015, après avoir gagné la médaille d'or à Toronto, je ne revivrai plus jamais une grande émotion comme celle-là avec cette équipe-là. Alors, pourquoi revenir? Je pense que Dominique Ducharme, c'est la même chose. Là, avec ce qu'il a vécu l'an passé, cette année, puis même il y a 2 ans, là, en raison des circonstances familiales où il a perdu son père, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec ce programme-là.
OK. Est-ce que Joël Bouchard a ce même genre de lettre de créance, lui aussi, dans sa poche avec la victoire? Est-ce que Joël est quand même quelque chose comme directeur général d'équipe Canada junior?
Ouais. Lui, ça fait 4 ans, Dominique, qu'il est impliqué. Là, il était impliqué au moins de 18 ans auparavant, puis là, il est allé avec les moins de 20 ans au cours des 2 dernières années. Pour lui aussi, c'est beaucoup d'heures, parce que lui aussi gère son équipe. Moi, je pense que Joël Bouchard, je l'ai dit à quelques reprises sur les différentes tribunes, c'est peut-être la meilleure tête de hockey qu'on a au Québec là, en termes de dirigeants, d'entraîneurs et tout ça. Année après année, son équipe à Boisbriand est solide. Puis en plus, ben c'est un fichu de bon coach, on va se le dire. Je sais pas comment. Tu sais, faut soit un vendeur auprès des jeunes quand tu veux réussir dans ce métier-là. Puis Joël Bouchard, c'est un fichu de bon vendeur. Je sais pas si lui va vouloir poursuivre avec Hockey Canada. C'est quand même un autre niveau pour lui. Il est pas en arrière du banc là, pendant le match. Sinon, ben écoute, peut-être que lui aussi, les portes vont s'ouvrir quelque part, mais la question qu'il faut se poser dans son cas, tu sais, l'Armada, c'est son équipe. Là. Il est copropriétaire de l'équipe avec d'autres anciens hockeyeurs et la compagnie Québécoise. C'est son bébé, l'Armada. Est-ce qu'il veut laisser ça pour aller avec une organisation professionnelle? Tu sais, tu regardes en Ontario, là, Dale Hunter a laissé à un certain moment les Knights de London pour aller dans les professionnels, puis il est revenu. Brent Sutter a laissé ses Rebels de Red Deer à un certain moment. Finalement, il est revenu avec son équipe junior. Ces gars-là trippent aussi. Est-ce qu'il veut aller dans une fournaise de la Ligue nationale un jour? Si l'occasion se présente et que c'est la bonne, peut-être que oui. Non, ben, je pense qu'en ce moment, il aime ce qu'il fait là, avec son équipe junior. Là.
Stéphane, je veux t'entendre sur la réaction du capitaine suédois, Elias Andersson, qui a lancé sa médaille d'argent dans les estrades après l'avoir reçue.
Écoute, il y en a qui déplacent ce jeu.
Comment?
Ouais, j'étais juste à côté quand c'est arrivé, mais je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu la séquence quand il s'est amené pour recevoir sa médaille. Au début, il ne voulait pas que M. Gonzalez lui accroche dans le cou. Ça, j'ai vu ça, le live. J'étais à 10 pieds de où ça s'est passé. Finalement, quand j'ai vu qu'il a mis sa médaille, ben, je me suis détourné là, pour aller faire mes entrevues. Je ne l'ai pas vu lancer. Mais il y en a qui parlent de manque de place, de manque de maturité. Il y en a d'autres qui disent ben ça prouve que c'est un vrai. Lui, les prix de consolation, il n'en veut pas. Est-ce qu'un jour, dans 10 ans, 15 ans, ils vont regretter ce geste-là? Peut-être, mais il ne semblait pas le regretter, en tout cas, quand les gens des médias l'ont rencontré. Une opinion, écoute, j'ai pas d'opinion vraiment là, de dire... moi, je pense que c'est un jeune qui était frustré sur le moment, puis il a posé un geste comme les jeunes le font des fois, là, peut-être sur le coup de l'émotion. On sait pas, peut-être que sa médaille a été récupérée là, par un soigneur ou quelque chose, qu'on est allé la chercher. Mais c'est sûr que... Ben, écoute, c'est un bon kid. Là. Moi, j'ai déjà parlé à ce jeune-là, Elias Andersson. Puis c'est un fichu de bon joueur de hockey. Là. Puis je suis pas mal sûr qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Puis il y a des gens qui sont prononcés puis ont dit, ben, c'est un vrai. Regarde, lui, le prix de consolation, il en veut pas. Mais il aurait peut-être pas dû faire ça publiquement, aux yeux et vus de tous, là, devant les caméras de la télévision. Moi, j'ai déjà vu Ryan Ellis du Canada qui joue avec les Prédateurs de Nashville maintenant. Se l'enlever dans le cou, là, puis aller la donner à un soigneur au banc. Ben, il voulait pas l'avoir, lui non plus. Je pense que c'était pendant l'édition de 2011 quand les Russes étaient remontés là, avec 5 buts en troisième période. Uh-huh. En tout cas, je l'ai vu faire ça aussi, Ryan Ellis. Il n'en voulait pas de la médaille d'argent. Alors, tu sais, tu dis c'est un vrai. Là, il veut gagner, il veut pas de prix de consolation. Mais en même temps, tu es deuxième au monde, c'est quand même pas mal dans la vie. Hein, mais ouais. Les Suédois, là, ce tournoi-là, ils ont une pression à chaque année. Puis ils se font dire année après année, on n'est pas capable de le gagner, on n'est pas capable de le gagner. Ça fait 11 ans de suite, Pierre, qui sont 4-0 en phase préliminaire. 44 victoires, aucune défaite. Et dans ces 11 années-là, ils ont gagné juste une fois la médaille d'or. Alors, ils s'effondrent tout le temps, en quart de finale, demi-finale ou en finale, ils sont pas capables de gagner. Tu sais, même si c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes dirigeants, ils ont le monkey on their back, là, comme ils disent en anglais, là, puis ils sont pas capables de se défaire de cette espèce de réputation-là, là, de crouler sous la pression. Puis là, ben, ils étaient en bonne position, tu sais, c'était 1-1. Tu sais, l'arbitre a été dur un peu avec les Suédois en troisième période. Faut enlever notre chauvinisme un peu puis se rendre compte qu'il y a peut-être une ou deux punitions que le Canada aurait pu avoir puis qu'il n'y a pas eu. Puis je pense que ça a fait partie aussi de la frustration là, de Andersson quand c'est arrivé.
OK. J'espère juste que le partisan américain, parce que de toute évidence, c'est un Américain qui avait un chandail...
Ouais, mais je me suis fait dire, Pierre, j'ai pas la preuve de ça, là, mais je me suis fait dire que le partisan avait un chandail suédois en dessous de son chandail des États-Unis.
Ah oui?
Alors, est-ce que c'était un Suédois? Il y a une autre prise de vue qui a circulé, semble-t-il, sur les médias sociaux. Je l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un m'a raconté qu'il a enlevé son chandail américain, puis que la médaille s'est enlevée, puis qu'en dessous, il y avait un chandail suédois.
Ah bon?
Écoute, peut-être qu'il va la garder, puis que si Elias Andersson devient une grande vedette dans la Ligue nationale, c'est un morceau qui va valoir cher dans les encans sportifs dans quelques années. Là, on verra bien, là, mais ça a fait jaser en tout cas.
Une histoire à suivre.
Eh bien, ou pas, justement.
Ou pas.
On verra.
Stéphane, merci beaucoup. Bon match à Victoriaville.
OK, merci. C'est 0-0 après une en passant à Victor Sherbrooke.
Parfait. Merci, Stéphane. À la prochaine.
Merci.